Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, mais...
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise,
notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top.
C'est dans le mettre. Là, on peut le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans ses conceptions.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues pas franges,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pauvre. C'est du temps que je prenais pas. C'est quand même curieux. 100 fois, tu dis. Jamais, je tombe en panne.
Merde, on a
aujourd'hui, mercredi 1er décembre, c'est la Saint-Sébastien le Cornu. Saint-Sébastien le Cornu est le saint patron des Outre-mer. On l'appelait avant le gouverneur des colonies. Saint-Sébastien le Cornu est tout d'abord, avant tout, de prime abord, ontologiquement, fondamentalement, de fait, un jeune. Un jeune UMP, autant dire un vieux. Un vieux con de droite qui, à l'instar de Darmanin ou quelques autres avant lui, n'a pas attendu l'âge de raison pour devenir un vieux, histoire de prendre de l'avance sur ses concurrents. C'est comme ça qu'on devient un vieux sénateur, un pléonasme, à 34 ans. Envoyé spécial dans les colonies agitées de nos Antilles, dans la foulée de quelques dizaines de superflics, Saint-Sébastien le Cornu, devenu dès le deuxième paragraphe de cette agiographie, LREM, c'est là qu'on bouffe le mieux, apporta aux nègres de notre empire la bonne nouvelle, toujours renouvelée, et qu'on pourrait ainsi résumer « Toi, y en a vouloir des sous ? Moi, y en a ramené 50 euros dans ma valise !» Et puis, l'avion redécollé vers Paris, et Saint-Sébastien le Cornu, qui ne sait strictement rien de la vie du prolétaire, et encore moins du prolétaire des colonies, s'en alla vers ses propres cieux, ceux d'une quelconque carrière ministérielle dans les brumes d'un impérialisme franchouillard finissant. Carriériste n'est pas un gros mot, c'est juste une opportunité. Fils de bourge pas trop doué, il te reste la politique aérie. Genre, dans un coin paumé de Normandie, tu chopes la mairie d'un petit bled, puis un conseil général, tu t'acoquines avec des politicards plus chevronnés pour les assister. parlementairement, façon Madame Fillon, tu te trouves en un rien de temps administrateur d'une autoroute, tu fais ton beurre, et en qualité de gendarme de réserve, c'est toi qui couvres Benalla le 1er mai. Bref, un homme de confiance, un bel avenir s'ouvre à toi. L'avenir des gens du passé qui veulent encore bouffer un peu de ce qu'il reste sur la table avant qu'elle soit renversée. Une histoire de dents trop longue en fait. Alors tu penses bien que quelques nègres miséreux qui attaquent les fondements de notre empire colonial à coups de bâton ne peuvent impressionner réellement un ministre de la République, accoquiné à des bataillons de flics surarmés et s'appuyant sur la petite pègre coloniale qui règne encore sur nos îles. Non. Quoi qu'il advienne, Saint-Sébastien Lecornu, macronisé jusqu'au trognon, représentant exemplaire de l'aventurisme bourgeois hexagonal, trouvera, dans le chaos et dans les défaites de son camp, un truc à bouffer pour payer ses costumes. Et c'est à ça que ça tient le destin d'un pays, eh ouais. Mais que la France est petite par rapport à la grande Guadeloupe, qu'elle est pitoyable, méprisable, indigente. Et c'est dans ce cadre étriqué et dans ce contexte de fin d'empire que Saint-Sébastien Lecornu, digne arriviste de cette bourgeoisie française au colonialisme moisi, a été canonisé entre une branlette de Griveaux et une pipe à Darmanin. La France, camarade, la France. Aujourd'hui, mercredi 1er décembre 2021, le soleil s'est levé, ça sentait la confiture et le désordre et l'obscurité. Il s'est couché, et moi je suis prêt à tous les sillages vers d'autres lieux, d'autres rivages. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com. Ce soir, vous retrouvez sur notre antenne le deuxième volet de l'entretien que nous a accordé Georges Gasteau. Et au préalable, eh bien, c'est la petite rubrique de Saïd Bouamama. C'est l'heure de le mettre.
Et tandis qu'il cherchait un campanile que jamais il ne trouva, Jack le manager rencontra Nick le coq dans la fosse à Burin d'un camping municipal à la ferme, dans les Alpes. À le voir ainsi tremper ses petites pattes et son bec de volaille frénétique dans la vase, à l'affût de quelques victuailles laissées là par mégarde par des poules surfriquées, Jack se dit qu'il avait affaire au coq de combat le plus malheureux que la terre ait jamais porté. Mais il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. J'aime ton style un peu pouilleux, ton regard plein d'aigreur. Si tu veux, je peux devenir ton chicken manager. C'est pas du catch, du sinoche, c'est du fight à la dure. Et la devise, pas de pitié, ta meilleure armure. Les coups bas sont conseillés et ton honneur, tu le ranges. Tu, l'obsession qui te ronge. Pas un stratagème qui dit, aime ton ennemi. Je veux lire de la haine dans tes yeux jaunis. Le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Puissant, rapide, fluide et léger, Nick est un véritable enfoiré. Attaquer l'ennemi à terre par derrière fait partie de ses coups de vis préférés. Puissant, rapide, fluide et léger, Nick est un véritable enfoiré. Attaquer l'ennemi à terre par derrière fait partie de ses coups de vis préférés. Entraîné au speedbag, à la corde à sauter, à déchiqueter des mannequins de coq en plastique, Jack motivait Nick, lui donnait la réplique, lui promettait de la dope, des femmes et du fric. Son premier combat dura 17 secondes, il tua son adversaire en deux coups de bec, un coup d'ongle et puis, comme pour combler la foule en liesse, le dévora tout cru jusqu'au sol il laisse. Le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. S'en suivit une success story de blockbuster, des combats annulés tant les adversaires avaient peur. Rail de coke, pipe de crack, bimbo, Pontiac, Nick
et Jack profitaient de leur vie rêvée de Mac. Mais le succès n'est pas toujours l'allié des amis. Nick ne tarda pas à faire enfler ses chevilles. Il voulait prouver à son maître qu'il avait bien appris ses déclinaisons de félonie. Il fit semblant de croire qu'un pélican traversait les airs. Jack se retourna, le regard tendu vers le ciel, mais c'est derrière lui qu'était l'oiseau, lui perforant les vertèbres à grands coups de bec dans le dos. Jack mourut et Nick, qui voulait l'Élysée, deviendra le président de tous les Français. Comme à l'écran, Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Redoutable coq à la ville comme à l'écran, Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Redoutable coq à la ville comme à l'écran, Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, le bilan dramatique du naufrage en mer du Nord, d'une embarcation transportant des migrants et sa couverture médiatique. Ensuite, les mouvements sociaux en Guadeloupe et en Martinique et leur couverture médiatique. Mercredi dernier, 27 corps de migrants décédés après le naufrage de leur embarcation étaient repêchés dans la Manche. Aussitôt, les gouvernements français et anglais d'une part et l'Union européenne d'autre part multipliaient les communiqués et déclarations, faisant part de leur émotion devant un tel drame. De manière unanime, ces prises de parole imputaient l'ensemble de la responsabilité aux passeurs qui profitaient de la misère humaine pour s'enrichir. La couverture médiatique, pour sa part, fut une nouvelle fois sensationnaliste et descriptive, c'est-à-dire non explicative et non contextualisante. Pour la plupart des grands médias, la cause unique mise en avant reste la même, les passeurs. Or, de même qu'il n'y a pas de corrompus sans un système corrupteur, il ne peut y avoir de passeurs durablement et en nombre significatif sans un système qui les alimente. Une nouvelle fois, politique et médias s'arrêtent à l'apparence sans interroger les mécanismes, ils s'arrêtent aux conséquences sans questionner les causes. Le silence médiatique et politique est ainsi assourdissant à l'endroit des deux causes structurelles des migrations vers l'Europe. La première cause est bien entendu les traités et accords économiques scandaleux imposés à coups de chantage au prêt, à l'aide ou à la dette, par les grandes puissances aux pays dits sous-développés, qui sont en réalité des pays contraints au mal-développement. Que ces traités s'appellent plans d'ajustement structurel pour le FMI ou la Banque mondiale, ou accords de partenariat économique pour l'Union européenne, ou encore zone africaine de libre-échange pour tous ces acteurs réunis, ils organisent tous la concurrence dite libre et non faussée entre les multinationales européennes et états-uniennes, soutenues par leurs États d'une part, et les petits producteurs de riz, de mil ou de sorgho d'autre part. De même, ces traités imposent tous la privatisation des secteurs miniers et de l'énergie au profit des grands groupes occidentaux. Nul besoin d'être un prix Nobel d'économie pour comprendre la conséquence d'une telle logique. La paupérisation de la paysannerie, l'exode rural et le chômage massif. Le silence médiatique et politique est tout aussi assourdissant à l'endroit de la seconde cause structurelle des migrations vers l'Europe, constituée par les guerres et déstabilisations qui secouent ces pays à qui sont imposés le sous-développement. Régulièrement, dans cette émission, nous faisons part de ces ingérences occidentales conduisant à des guerres civiles ou à des guerres tout court. Au-delà de la multiplicité des situations, ce qu'il y a de constant, ce sont les trois causes de ces déstabilisations. Le contrôle des matières premières, le contrôle des voies d'acheminement de ces richesses et la volonté de bloquer l'accès à ces ressources pour les puissances émergentes et en particulier pour la Chine. En dépit de ces deux causes profondes, silenciées par les grands médias et leaders politiques, seule une infime minorité de ces déracinés du capital parvient en Europe ou aux USA. Il ne suffit pas de vouloir partir pour pouvoir le faire. Pour la grande majorité, ils survivent sur place ou migrent vers un pays voisin. Cette infime minorité, tentant la migration intercontinentale, est confrontée à une militarisation des frontières et des mers, les poussant à prendre des routes de plus en plus dangereuses et à faire appel aux requins que sont les passeurs. Une nouvelle fois, deux logiques médiatiques ont été dominantes. Informer sans contextualiser d'une part, et décrire les conséquences en taisant les causes d'autre part. Les grèves générales en Guadeloupe et en Martinique ont rapidement donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre, à des barrages de routes, à une paralysie de ces deux pays. La réaction du gouvernement français fut immédiatement de réduire ces contestations populaires à un mouvement dit anti-vaccination d'une part et à l'envoi de nouvelles forces répressives dans ces deux colonies françaises d'autre part. Le GIGN et le RAID y sont envoyés alors que ces corps spéciaux de la police et de la gendarmerie sont normalement affectés à la lutte contre le terrorisme ou contre les prises d'otages. La couverture médiatique, pour sa part, se concentre quasi essentiellement sur la violence des manifestants. Le terreau social et économique de ces colères populaires est parfois mentionné, mais comme un élément secondaire du décor et sans jamais le décrire précisément. Rappelons-le, pour la Guadeloupe par exemple, carence récurrente d'eau potable, sous-dotation en infrastructures hospitalières et en personnel de soins, taux de chômage de la jeunesse atteignant 60% de celle-ci, un seuil de pauvreté fixé à 790 euros contre 1020 euros en métropole. Malgré cette baisse arbitraire du seuil de pauvreté, 34% de la population se situe en dessous de ce seuil, une inflation galopante ayant déjà donné naissance à de nombreuses grèves générales ces dernières années. Le contexte social et économique est du même type en Martinique. Il est violent systémiquement, d'une violence beaucoup plus forte que celle des manifestants. C'est dans un tel contexte que le gouvernement français a décidé d'imposer l'obligation vaccinale pour les soignants sous peine de perdre leurs emplois. Cette obligation prétend s'appliquer dans un pays encore meurtri par les scandales sanitaires meurtriers dus aux décisions du gouvernement français successif. Pour ne citer qu'un de ces scandales, citons celui du chlordécone, un pesticide cancérigène interdit en France mais autorisé aux Antilles françaises pendant des décennies. Ce pesticide, utilisé massivement par les patrons de la banane, a contaminé 90% de la population, mais aussi les sols et nappes phréatiques. Résultat, explosion des cancers de la prostate et des naissances prématurées. Comment s'étonner dès lors de la méfiance sur la vaccination contre le Covid dans un tel contexte ? L'obligation vaccinale n'a été qu'une goutte qui a fait déborder le vase déjà bien plein de l'organisation coloniale des économies guadeloupéennes et martiniquaises, entièrement centrée vers la métropole et les grands groupes agro-industriels. La violence des manifestants n'est pas le résultat de quelques excités, mais reflète la colère massive populaire contre une violence sociale, économique, systémique, permanente. Occulter ce contexte historique et économique n'est rien d'autre qu'un mensonge par omission, aboutissant à rendre incompréhensible la juste colère populaire. Il y a déjà plusieurs décennies, l'évêque brésilien Don Helder Camara résumait la question de la violence populaire comme suit. Je cite « Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.
Merci patron, pour ça que varie le maniac là. C'est ti moun a aimé ça tout bonnement. Merci patron, merci pour congé là. Longtemps moi pas te poser colla. Merci patron, sur moi travaille plus. Sous que payer moins plus, patron. Merci, patron. Merci pour travail là. Merci pour générosité au patron. Oulé, à qui mille, car ou laissez bon moins. Oulé, à qui mille, car ou laissez bon moins. Oulé, à qui mille, capital en moins, oh là est passé, hey. Merci patron, moi qui prie bas, pour m'en demander béni au patron. Merci patron, merci pour l'argent là, fait toute famille en moins content patron. Merci patron, et chaque jour on donne charge, moi ne paye pas encore patron. Merci patron, merci pour le travail là. Générosité au patron. Oulé, à qui mille, car ou laissez bon moins. Oulé, à qui mille, car ou laissez bon moins. Oulé, à qui mille. Capital en nous, on l'a passé. Hey!
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Nous sommes toujours à Lens, chez Georges Gastaud. Georges Gastaud, vous êtes communiste. Communiste, parfois, j'ai l'impression que c'est un gros mot.
Eh ben, tant mieux. Quelque part, ça dépend pour qui c'est un gros mot. Je dirais que si c'est un gros mot adressé à tous ceux qui exploitent le monde et qui l'oppriment, eh bien, il faut lui garder cette vertu de gros mot, quelque part. C'était déjà un gros mot à l'époque de Marx et Engels, puisque les premières lignes du manifeste communiste sont très connues, c'est un spectre entre le monde, le spectre du communisme. Donc déjà, le communisme, à l'époque, était agité comme un spectre, spectre rouge, comme disait Victor Hugo. Bon, alors, moi, je dirais quand même un petit peu comme le disait René Andrieux à une certaine époque. René Andrieux, c'était le rédacteur en chef de l'Humanité, qui a été un grand résistant par ailleurs. Il disait, bon, on peut être communiste parce qu'on est marxiste, qu'on a compris un petit peu comment fonctionne la société capitaliste et pourquoi elle ne peut se dépasser que dans le cadre d'une société sans classe, c'est-à-dire le communisme. Mais il ajoutait aussi que suffisait au fond d'être cartésien dans une certaine mesure. Parce que disait-il tout de même, bon, lorsqu'on voit qu'actuellement les maîtres du grand capital, les grands actionnaires, ceux du CAC 40 et ainsi de suite, ont directement barre sur la vie de centaines de milliers de personnes, que les bénéfices qui sont engrangés par ces sociétés vont principalement à quelques personnes, à quelques sociétés, à quelques États, mais surtout même à quelques personnes dans ces quelques États. On comprend quand même à terme, que ça ne peut pas durer comme ça éternellement, que si on va comme ça encore dans cette direction bien longtemps, la planète, comme disent les braves gens, ou l'humanité, comme je dis moi, n'ont pas beaucoup d'avenir, quoi, en quelque sorte. Donc, quelque part, que le mot commun fasse peur, c'est quand même plutôt un symptôme inquiétant pour notre société. Mmh. Que l'idée de mettre les choses en commun soit quelque chose qui passe pour un gros mot, c'est plutôt ça qu'il faut interroger. Hein, il faut ici avoir presque une oreille un peu analytique, je dirais presque freudienne, sur le fait que dans une société comme la nôtre, la mise en commun fasse plus peur que l'accaparement, que la monopolisation, que le tout pour moi, rien pour les autres. Comment ne pas voir, mais même quelqu'un comme Greta Thunberg, je ne sais pas que je la mette sur, je la porte au pinacle, cette jeune fille, mais bon, finit par comprendre, alors qu'au début elle était uniquement sur des problématiques écologiques et environnementales, que si on ne porte pas atteinte quelque part un peu à cette répartition totalement déplorable des richesses, et au fait notamment que la base de cette répartition déplorable des richesses, c'est le fait que les uns possèdent les grandes entreprises, les grands magasins, les infrastructures, les satellites, la capacité d'envoyer des hommes dans l'espace et ainsi de suite, alors que les autres galèrent d'un petit boulot à un autre, ça ne peut pas marcher. Voilà, bon, moi, mon souci principal, c'est quand même que bon, l'humanité puisse continuer, qu'on puisse continuer à construire ce que j'appelais tout à l'heure le sens, et que, d'une façon ou d'une autre, les combats du passé ne soient pas perdus, mais nourrissent les avancées de demain. Bon, ben, si on veut que tout ça se prolonge, se continue, il faut tout de même qu'à un moment ou à un autre, il y ait une mise en question, une mise en cause radicale de cette, non pas seulement répartition des richesses, si on dit ça, on n'est pas communiste, on est social-démocrate, hein, mais de la façon de produire, du mode de production, des rapports de production, de l'existence des classes sociales, de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, donc, je pense que le communisme n'est pas derrière nous, mais devant nous. Tout au moins s'il y a un devant nous. Maintenant, si on veut aller vers une destruction généralisée à petit feu ou brutale de l'humanité, ben continuons comme ça. Et vive l'anticommunisme. Seulement, le seul problème, c'est que l'anticommunisme conduira aussi à la mort des anticommunistes.
Alors, si ce n'est pas un gros mot, ça peut être un peu moins grave, c'est une utopie.
Alors voilà, oui, c'est une utopie. Alors, je prends là aussi le problème un petit peu par l'autre bout. Je pense que souvent, dans les sociétés comme les nôtres, les choses se pensent à l'envers. Hein, l'idéologie dominante, l'idéologie bourgeoise, a l'art et la manière d'inverser les rapports réels, de présenter la cause pour les faits, la contre-réforme comme la réforme, et ainsi de suite. Bon, je dirais qu'en fait, l'utopie, c'est de continuer comme ça, de croire qu'avec le capitalisme, on va pouvoir continuer comme ça, que c'est être réaliste que de défendre le système capitaliste. Le système capitaliste tel qu'il est tellement dangereux, est devenu tellement dangereux que même un certain nombre de capitalistes le disent. J'écoutais récemment Alain Minc, j'écoutais récemment Attali. Bon, ce sont évidemment des chantres de l'idéologie dominante, ce sont des pontifs, en quelque sorte, de la mondialisation heureuse, de l'Europe magnifique, etc., etc. Mais néanmoins, ils disent tous, ben oui, en ce moment, je relis Marx. Et ils disent aussi que, oui, bon, quand même, il faut faire attention, que ça ne peut pas quand même durer éternellement comme ça, que messieurs les capitalistes, dont ils font partie, si la branche sur laquelle ils sont perchés. Alors eux, évidemment, c'est pour modérer un petit peu à la Biden, à la marge, les effets les plus désastreux du système. Je ne pense pas, moi, qu'on puisse atténuer les effets du système. Justement, ils sont systémiques, et par conséquent, si on se contente de replâtrer d'un côté, le mal réapparaît de l'autre, et ainsi de suite. Mais bon, en tout cas, ils le disent, ce qui prouve que, quelque part, ils sont sortis de ce qu'on disait dans les années, disons, 90, lorsque l'Union soviétique venait de tomber, et que, donc, eh bien, nos grands idéologues, à grands coups de tam-tam médiatique, universitaire et autres, annoncer la fin de l'histoire, annoncer la mort du communisme, annoncer la mondialisation heureuse, annoncer l'Europe démocratique, pacifique, progressiste, et ainsi de suite.
Et la paix perpétuelle.
Et la paix perpétuelle par-dessus le marché, alors que depuis, on a accumulé les guerres de tous les côtés, que ça saigne, que ça flambe, que ça pète un petit peu partout, et qu'on ne sait pas, et que dans la dernière période, M. Biden nous annonce même un conflit de haute intensité, je cite, avec le pays le plus peuplé du monde, c'est-à-dire la Chine, qui ne comprend que si on continue dans cette direction-là, on va vers une catastrophe à côté de laquelle la Première et la Deuxième Guerre mondiale elles-mêmes feront figure, disons, de simples préludes. Donc voilà, ce qui est utopique, c'est de continuer sur ces rails-là. Donc il faut au contraire, effectivement, ici, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin, non pas éliminer le concept de fin d'histoire, mais, on a parlé de matérialisme dialectique l'autre fois, le dialectiser. Je pense en effet que nous sommes dans une situation où deux fins de l'histoire, F-I-N-S, hein, se heurtent, en quelque sorte, et s'affrontent sur des bases de classe opposées, en quelque sorte. Soit la fin de l'histoire telle que nous la promet le capitalisme, c'est pour ça qu'à ce sujet je parle par exemple d'exterminisme, je pense que la dimension fondamentale du système à l'heure actuelle est devenue pandestructive, bon, de tous les côtés, économique, écologique, militaire, etc., ou une bonne fin de l'histoire, une meilleure fin de l'histoire, celle qui se recèle plutôt au sens du mot fin, non pas fin, le mot fin a deux sens en français, hein, c'est la terminaison, mais c'est aussi le but, les fins et les moyens par exemple. Bon, eh bien, la bonne fin de l'histoire qui serait au contraire celle d'une humanité qui arriverait à coopérer, les peuples coopérant entre eux, les citoyens d'un même peuple coopérant entre eux exactement de la même façon, pour que, effectivement, ben, le rapport des hommes à la planète, à la nature, etc., soit assaini, et pour que le rapport des hommes entre eux soit lui-même, redevienne lui-même vivable. On n'a pas le choix. La chanson du mouvement ouvrier, l'international, dit « l'international sera le genre humain », etc., des choses comme ça. C'est la lutte finale. Ben oui, c'est la lutte finale. C'est la lutte des fins. Ces deux fins se heurtent. D'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas l'une, ça sera l'autre, quelque part.
Alors si, aussi, si le mot communisme peut être considéré, je parle en particulier dans notre pays, bon, en Occident on va dire, comme un gros mot ou comme une utopie, c'est parce qu'il y a eu aussi ce qu'on a appelé le socialisme réel, une expérience, et vous venez de dire qui, vous venez de signifier les années 90 et donc la fin, la défaite du communisme. Est-ce que cette défaite, elle pèse tant que ça, ou est-ce que ça peut être une défaite provisoire et un rebond? Moi, j'ai l'impression quand même que ça, en tout cas, quand on regarde, on reparlera après de politique purement politicienne, mais quand on regarde l'audience des idées communistes sur la scène politique en France, on peut penser que ça pèse énormément. Quelle analyse vous faites aussi de cette période de socialisme réel, tout en signalant toutefois que tout n'a pas été perdu, puisque il y a la Chine, il y a Cuba, etc.
Mais oui. Oui, alors bon, je fais partie de ces gens qui, en 1990, n'ont pas applaudi à la chute ce qu'on appelait la chute du mur de Berlin. En réalité, la destruction de la RDA. Qui n'ont pas applaudi non plus en 91 lorsque le drapeau rouge a été abattu sur le Kremlin et qu'il a été remplacé par le drapeau nationaliste de la Russie actuelle, post-soviétique comme on dit, et qui ont considéré que c'était une défaite, en effet, du socialisme, de la première expérience socialiste de l'histoire, avec ses qualités et ses défauts, comme il y a eu aussi, par exemple, après la victoire de la Révolution française dans un premier temps, la défaite de cette révolution, et la restauration capitaliste, la restauration à l'époque non pas capitaliste, mais monarchique, chaque chose en son temps. Ce n'était pas une victoire. Hein. Lorsque les armées de Napoléon ont été battues, c'est pas que j'aime Napoléon, hein, loin du monde, mais lorsqu'elles ont été battues, c'était pas une victoire des peuples. C'était la victoire du tsar, c'était la victoire de Metternich, c'était la victoire de toutes les puissances réactionnaires de l'Europe, avec la naissance à l'époque de ce qu'on a appelé la Sainte Alliance, le traité de Vienne, hein, et bon, l'Europe de Metternich. En particulier. Eh bien, regardons.
Je sens, quand vous dites Europe de Metternich, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, que vous voyez des ressemblances avec l'Europe actuelle. Mais
oui, ben je ferai même l'assonance. Hein, Europe de Metternich, Europe de Maastricht. Pour moi, il y a une assonance ici qui n'est pas que, comment dire, linguistique, quoi, en gros. On a affaire à des processus de restauration. Bon, ce n'est pas tout à fait extraordinaire que les révolutions soient suivies de contre-révolutions. Que les réformes soient suivies de contre-réformes. Je ne serais pas dialecticien, ou je n'essaierais pas de l'être, si je pensais que le progrès de l'humanité est linéaire, hein, et qu'on avance comme ça, de victoire en victoire, peut-être comme on l'a un peu trop idéalisé à une certaine époque, les lendemains qui chantent, et ainsi de suite. Il y a des lendemains qui chantent, et il y a des lendemains qui déchantent. mais il y a aussi des déchantements qui déchantent à leur tour. Et messieurs les capitalistes déchantent aussi en ce moment. Hein, ils déchantent de leur déchantement, si l'on peut dire. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, je montrais tout à l'heure, en définitive, plus personne aujourd'hui n'ose employer l'expression dans la main que « mondialisation heureuse ». Plus personne n'ose dire que, comme on le disait en 91, quand Madame Elisabeth Guigou vendait le traité de Maastricht en faisant des brochures pour les enfants, hein, on a littéralement envahi la France avec des brochures destinées aux enfants pour les parents en réalité, vantant le oui au traité de Maastricht, plus personne n'ose dire que l'Europe, c'est la belle arrivée, comme il disait à l'époque, c'est-à-dire la fin du chômage, les salaires qui croissent, etc., etc. Bon, on a vu, hein, on a payé pour voir, comme on dit au poker, en quelque sorte. Il y a l'expérience des peuples. Et même d'un certain côté, c'est intéressant de voir que dans les pays de l'Est, quand on les sonde actuellement et qu'on leur demande bon, ben, si c'est mieux maintenant ou si c'était mieux avant, eh bien, ils répondent « c'était mieux avant », non pas parce que ce sont d'affreux réactionnaires, puisque même les jeunes répondent ça, que c'était mieux à l'époque de l'Union soviétique. Et quand on leur dit « est-ce que c'était très bien ?», ils disent non. Et ils voient bien qu'il y avait des défauts. Évidemment que s'il n'y avait eu aucun défaut, ça ne se serait pas cassé la figure. On les a un peu aidés, enfin, on a aidé l'Union soviétique à s'effondrer, mais c'est sûr que si tout avait parfaitement marché, la contre-révolution qui avait eu lieu là-bas n'aurait pas pu trouver matière, en quelque sorte. Mais n'empêche que tous ces gens voient quand même qu'ils avaient un pays à l'époque uni, qu'ils n'avaient pas l'OTAN à leurs frontières immédiates, qu'ils n'étaient pas dans une situation de quasi-guerre civile permanente à leurs frontières directes avec l'Ukraine ou avec certaines parties du Caucase, par exemple, que bon, les gens avaient du travail, que les enfants pouvaient aller à l'université sans que les parents soient obligés de débourser une fortune, que quand on était malade, on était soigné gratuitement. Et ainsi de suite.
Et puis bon. Il y a aussi une question de prestige international, mais oui, mais voilà, scientifique.
Et puis voilà, et que leur pays était un grand pays, et que, bon, voilà, ça compte aussi, cet orgueil national, il n'est pas illégitime, chacun a besoin d'être fier de lui-même, et ça fait partie de l'existence, hein, que d'avoir une certaine fierté de soi, quoi, disons. Ce que Lénine appelait la fierté nationale des grands Russes. Mmh. Les grands Russes, c'était le nom de l'ethnie majoritaire de l'Union soviétique. Bon, passons. Donc, tout cela, aujourd'hui, se ressent. Et, bon, je citais dans la première entretien que nous avons eu, je citais l'Évangile, par matière aussi un peu de provocation. Et il y a un passage très matérialiste dans le dit Évangile qui dit « Tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits. Mmh. » Hein ? Donc, quels sont les fruits de la contre-révolution ? Est-ce que l'humanité vit mieux, aujourd'hui, quand il n'y a plus l'Union soviétique ? Est-ce que le monde du travail est plus à son aise, plus à son avantage, plus à l'offensive depuis que l'Union soviétique a disparu, ou est-ce qu'au contraire, il n'a pas été largement réduit, un peu partout, mondialement, à une certaine défensive ? Voilà, donc on voit bien ici que, globalement, cette défaite de l'Union soviétique a été une défaite du camp des prolétaires, du camp des peuples aussi, puisque l'Union soviétique, disons, soutenait aussi, alors peut-être pas toujours de façon suffisante et pas de façon toujours suffisamment conséquente, par exemple le peuple palestinien, les peuples qui étaient en lutte contre l'impérialisme mondial et ainsi de suite. Mais bon, elle était là. Ce n'était pas forcément toujours encore à l'époque la force d'avant-garde qu'elle avait été à une époque plus ancienne, mais c'était un rempart, une sorte de rempart pour la paix, une sorte de rempart pour la libération nationale, une sorte de rempart pour les femmes. On parle beaucoup du mouvement des femmes à l'heure actuelle, et donc on met en avant surtout des mouvements qui sont plutôt petits bourgeois en réalité, hein. Mais quand on regarde ce qui s'est passé pour les femmes depuis que l'Union soviétique s'est effondrée, ou plutôt qu'on l'a aidée à s'effondrer...
Il y a un recul.
Il n'y a qu'à prendre l'Afghanistan, nom de nom. Hein, mm-hmm. Tout de même. J'avais un ami, il y a bien des années, là, qui était en poste diplomatique à Kaboul, pendant la période où les communistes, ou ce qu'on appelait comme ça, étaient au pouvoir là-bas. Et il disait que, bon, le jour où ils avaient pris le pouvoir, c'était la fête à Kaboul, que c'était mai 68 dans les rues, que l'élite, entre guillemets, intellectuelle, notamment les étudiants, etc., faisait sauter les bouchons de champagne. Et que pendant l'époque où les communistes étaient au pouvoir à Kaboul, il y avait plus de filles à l'université de Kaboul que de garçons, par exemple. Voilà des choses concrètes, réelles. Hein. Et bon, effectivement, ça compte tout autant que de dénoncer son port, etc., même si je ne suis pas pour protéger les ports, évidemment, bien sûr. Mais pour des millions et des millions de femmes prolétaires, pour des millions et des millions de femmes paysannes, pour des millions et des millions de femmes qui n'allaient pas et ne vont toujours pas à l'école, hein, qui n'ont pas l'eau courante à la maison, qui n'ont pas l'électricité, et ainsi de suite, voilà à quoi se marque concrètement ce qu'on appelle le progrès social. Hein. Voilà, donc toutes ces choses-là, il faut quand même le dire. Marchais, Georges Marchais, à une certaine époque, parlait du bilan globalement positif du socialisme, et tout le monde se moquait de lui, à propos de cette formule qui aurait peut-être pu être un peu plus à droite, mais enfin bon, en tout cas, qui...
À droite en un mot. Hein.
À droite en un mot, du mot adresse, voilà, c'est ça, exactement. Donc, bon, la réalité, c'est qu'en tout cas, quoi qu'on pense de tel ou tel aspect de la vie sous l'Union soviétique ou sous la RDA, eh bien, aujourd'hui, moi, je dis quand même qu'il y a un bilan non seulement globalement négatif, mais globalement catastrophique, de la destruction du socialisme. Non pas du socialisme réel, mais de la destruction du socialisme réel. Disant cela, encore une fois, je ne suis pas béat d'admiration devant tout ce qui se faisait en Union soviétique, en RDA, ainsi de suite. Je suis allé là-bas quand ces pays existaient encore. On voyait à l'œil nu des défauts importants qui n'ont pas été corrigés à temps. Bon, enfin bref. Mais voilà, qu'on me dise où une première expérience socialiste, une première expérience tout court, de quelque ampleur qu'elle soit, a marché à 100%. On disait tout à l'heure, en parlant de la, ou l'autre jour, en parlant de la démarche scientifique, qu'elle n'avançait pas comme ça, tranquillement, qu'il fallait rectifier tout le temps, que la vérité est une erreur rectifiée, ainsi de suite. Eh bien, c'est à nous de voir si cette avancée qu'a été la Révolution d'Octobre, puis la construction de cette première expérience socialiste, va nous servir à quelque chose ou pas. Si nous serons capables de tirer les leçons positives et négatives, mais positives aussi, de cette première expérience pour que la seconde soit la bonne. Et pour qu'effectivement, il n'y ait pas de contre-révolution qui suive les nouvelles révolutions. Et un dernier point quand même, encore, c'est qu'en effet, je pense, comme vous, que non pas on touche au bout, ça irait trop vite, de l'expérience de destruction des pays socialistes, etc., bon, mais que on est dans une phase quand même de... Comment je vais dire ? Dans le temps, Régis Debray parlait de révolution dans la révolution. Je ne crois pas qu'on puisse encore dire de révolution dans la contre-révolution, mais en tout cas d'évolution, ou quelque chose comme ça. Parce que, ne serait-ce qu'à partir de la crise du coronavirus, on a bien vu dans ces dernières années que, tout de même, bah, les pays les plus engagés dans la voie capitaliste néolibérale pure et dure, c'est-à-dire l'Angleterre de Boris Johnson, les États-Unis de Donald Trump, le Brésil du fasciste, comment ça s'appelle ?
Bolsonaro,
voilà, exactement, ont été les plus catastrophiques en la matière, et ont été les plus catastrophiques alors qu'ils avaient les moyens les plus importants. On ne peut pas reprocher à tel ou tel pays nécessairement d'avoir eu des résultats très mauvais quand il n'y a pas d'hôpitaux, quand il n'y a pas de médecins, quand il n'y a pas d'électricité, etc., etc. Mais quand même, bon, les pays les plus riches, notamment les États-Unis, en quelque sorte, qui ont des résultats pareils, avec une pandémie qui leur a coûté... Ils ont eu un an de recul de l'espérance de vie sur une année. C'est énorme, c'est colossal, effectivement. Alors que, bon, on a vu... alors la Chine, on peut toujours discuter sur ceci ou cela, mais bon, ils sont quand même entrés les premiers dans la pandémie et sortis les premiers. Cuba, avec des moyens dérisoires, avec un blocus qui tourne au siège, hein, vraiment, ils sont assiégés maintenant, en ce moment, à Cuba... sera un pays qui, avec ses propres moyens, son propre vaccin, va tout de même avoir réussi à protéger sa population. Nous, le pays de Louis Pasteur, eh ben, nous sommes incapables d'avoir produit notre propre vaccin parce que nous avons, et ça c'est le néolibéralisme, c'est l'Union européenne, ainsi de suite, détruit notre industrie, largement affaibli notre recherche fondamentale, et ainsi de suite. Donc, tu jugeras l'arbre à ses fruits. Eh ben voilà, les fruits, ils sont pas beaux à voir.
Radio Campus.
Patron, je te dis, ne discute pas avec les communistes, mon Dieu.
106,6.
Lors de la première partie de notre entretien, vous nous avez dit, allez, avoir pris votre carte au Parti communiste à la toute fin des années 60 ou début des années 70.
70, voilà. Ah. 70, c'est encore mieux.
Oui, à Beau Soleil.
C'est ça.
C'était peut-être prédestiné. Comment, je vais le dire de manière peut-être un peu brutale, mais ça va vous plaire, je sais. Donc, mais comment on a fait pour passer du parti de Maurice Thorez à celui de Fabien Roussel, et en passant donc un parti où vous étiez et où vous n'êtes plus ?
Oui, alors un parti où je ne suis plus, où j'ai essayé de rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça devienne, à mon avis, impossible, voire, peut-être le mot est un peu fort, indécent. Mais bon... Donc, en réalité, quand je suis entré au Parti communiste, J'avais déjà, il faut le dire, soyons quand même francs, j'avais déjà quelques petits doutes. Parce que au début des années 70, notamment, j'avais l'impression que le PCF ne tenait pas bon sur la question de l'État. En tant que jeune philosophe, c'était quand même une question qui m'interpellait. Et bon, notamment, lorsque on disait tout le temps, en contournant les difficultés, qu'il s'agissait de démocratiser l'État, je me disais, ben, c'est pas tellement ce que dit Lénine. Lénine, il dit pas qu'il faut démocratiser l'État bourgeois, il dit qu'il faut, à un moment ou à un autre, supprimer, faire springen en allemand, je sais plus comment le traduire, faire sauter, en quelque sorte, pas au sens, évidemment, de dynamité, mais les appareils répressifs de l'État bourgeois, effectivement. Alors, il peut y avoir une démocratisation, mais elle doit aboutir, à un moment ou à un autre, à un double pouvoir, et puis, bon, voilà, que... Il faut choisir entre les deux, quoi. Et entre le pouvoir de la classe ouvrière et de ses alliés et le pouvoir du grand capital. Donc à un moment ou à un autre, il y a la question de la révolution, du seuil qualitatif, il y a la question de ce que Lénine appelle la dictature du prolétariat, et Marx avant lui. Et je trouvais que le PCF, déjà à l'époque, au tout début des années 70, contournait cette question, ou était mal à l'aise sur ce sujet, et on a vu très vite que dès 73, avec le défi démocratique de Georges Marchais, puis, très vite, le 22e congrès, l'abandon officiel de la dictature du prolétariat, puis en 79, l'abandon de la référence au marxisme-léninisme dans les statuts du parti, etc., etc. Bon, ben, le parti était engagé sur une pente glissante. Voilà, bon, j'y ai quand même adhéré pour la raison fondamentale que je disais tout à l'heure, bon, un peu simpliste peut-être, mais les barricades n'ont que deux côtés, quelque part. Je voulais me situer du côté de la classe ouvrière, je voulais me situer du côté des travailleurs, je considérais quand même que c'était le parti des travailleurs, historiquement, et puis dans la réalité aussi, hein, parce que c'était là qu'étaient quand même les ouvriers les plus conscients, les artisans, aussi à Beausoleil il y avait beaucoup d'artisans, enfin c'était d'anciens ouvriers pour la plupart. Voilà, donc j'y ai adhéré avec bonheur, quelque part, j'ai trouvé là une fraternité... une gentillesse, enfin bon, une anticipation quelque part d'une société communiste. Ces gens, je ne les ai jamais oubliés, même s'ils ont finalement quand même pour la plupart suivi les évolutions du parti, parce que le parti ne pouvait pas se tromper, etc. Mais bon, c'était quand même une crème humaine, je dirais. Hein. Et puis, en même temps, j'étais quand même un petit peu prudent, disons, en quelque sorte. J'avais d'ailleurs même envoyé un petit texte dès les débuts des années 70 à France Nouvelle, qui était le journal de l'époque du PCF, sur la question de la démocratisation de l'État, où j'exprimais quelques doutes. Puis, effectivement, j'ai vu que sous la pression, d'une part de l'antisoviétisme, des campagnes antisoviétiques, des campagnes anti-vietnamiennes aussi, hein, bon, faut pas oublier ça, quoi. Je crois qu'il faut que les jeunes, en particulier, aient en tête un truc très simple. En 75, le Vietnam arrive, par ses propres forces, principalement, même s'il a été aidé par l'URSS et par la Chine, à vaincre l'impérialisme le plus puissant. On voit donc les hélicoptères américains qui viennent chercher, c'est la débandade à Saigon, etc., leurs collabos locaux sur l'immeuble de l'ambassade des États-Unis. Bon, bref, victoire mondiale des peuples, du prolétariat, et ainsi de suite. Et panique à bord, bon, les capitalistes du monde entier se disent « mince, mais où on va, quoi hein ?» D'autant que, bon, ça pousse quand même, à l'époque, dans tous les sens, plutôt du côté du drapeau rouge. Il ne faut pas oublier qu'en 1974, il y a la révolution des œillets au Portugal, que c'est le Parti communiste qui, au début, est quand même la force dominante là-dedans, hein, que Vasco Gonçalves, le premier ministre de la révolution des œillets au Portugal, était un sympathisant communiste notoire. Que ça s'accompagne de la libération des colonies portugaises, hein, l'Angola, le Mozambique, quoi encore, la Guinée-Bissau, voilà, exactement. En Italie, même s'il y a beaucoup à dire sur l'orientation du Parti communiste italien à l'époque, n'empêche que dans cette saison-là, il fait jusqu'à 33% des voix aux élections. Hein. Que en France, on peut critiquer la politique du programme commun, mais à l'époque, au tout début, c'était le Parti communiste qui était la force dominante dans l'alliance du programme commun. Et moi, j'ai toujours en tête une de l'Express, journal bourgeois quand même de l'époque, où on voyait une carte de l'Europe, un encrier rouge, renversé sur cette carte de l'Europe avec des taches d'encre rouge sur le Portugal, l'Espagne aussi, où ça branlait dans la manche avec la transition qui n'était pas bien assuré du côté des bourgeois qui pouvaient se demander comment ça allait tourner cette affaire-là, en Grèce aussi, hein, la chute des colonels. Enfin bref, ça tournait vinaigre, je dirais, pour la classe capitaliste mondiale à l'époque. Et donc contre-attaque mondiale. À l'époque d'ailleurs, le PCF l'avait bien analysé. Contre-attaque mondiale du camp du grand capital, avec ce que Georges Marchais à l'époque appelait la guerre idéologique. Il disait, voilà, les capitalistes ne sont pas capables... Alors, je ne faisais pas tout à fait la même analyse que lui. Les capitalistes ne sont pas capables de mener la guerre tout court, parce que, bon, avec la dissuasion nucléaire, c'est pas évident, les Russes peuvent le rentrer dedans et ça peut faire du vilain. Donc ils mènent la guerre idéologique pour, démolir les défenses idéologiques des communistes, principalement des communistes, des syndicalistes, et ainsi de suite. Donc on a eu toutes ces campagnes... avec, par exemple, les nouveaux philosophes en France, hein, les Nussbaum, Bernard-Henri Lévy, tout ça, ça a été une contre-attaque mondiale, dans laquelle l'intelligentsia bourgeoise française a joué un rôle majeur et lamentable, disons. Hein. Et donc, effectivement, à partir de là, tous ces gens ont contre-attaqué. Le Parti communiste, à l'époque, parce que, précisément, déjà, il n'était plus très ferme sur ses conceptions matérialistes, dialectiques, marxistes-léninistes, et ainsi de suite, parce que déjà, il était travaillé au corps par un certain nombre d'éléments que je qualifierais quand même de sociodémocrates, hein, tout simplement, à l'intérieur même du parti, ben, n'a pas eu les défenses immunitaires qui lui ont permis de tenir bon par rapport à tout cela.
Je ne veux pas avoir une vision schématique, mais elle va être schématique quand même. Mmh. Ce que je vais vous dire est schématique. Mais vous me faites craindre, là, presque, que le Parti communiste français aurait été... pris d'assaut de l'extérieur, c'est-à-dire que des éléments à l'intérieur avaient pour fonction de le détruire.
Je crois, oui, mais c'est schématique, mais les schémas peuvent être vrais. Donc il peut y avoir des moments où ça fonctionne. Hein. Quelquefois c'est complexe, il faut dire que c'est complexe, et quelquefois c'est plus simple qu'il n'y paraît. Si on dit « Ouh là là, c'est complexe », on ment. Bon, qu'on voit ce qui s'est passé au PC français, au PC italien, ou plus encore au PC soviétique, hein, avec Gorbatchev, avec tous ces gens-là, on s'aperçoit que bon, les vieilles leçons de géopolitique du plus ancien géopoliticien que je connais, c'est-à-dire Homère, hein, fonctionnent bien. Pendant 11 ans, si on a lu l'Iliade, on voit Agamemnon et Iliade qui essayent de prendre d'assaut Troie, ils n'y arrivent pas. Ils se cassent les dents parce qu'il y a Hector, parce que bon, tant qu'on attaque la forteresse de front, eh bien, elle se défend, et il y a des héros de tous les côtés, et puis les gens ne veulent pas être qu'on prenne leur ville, qu'on assassine leurs enfants et qu'on viole leurs femmes. Bon, quand est-ce que ça marche? Quand Ulysse, qui est le plus malin de la bande, invente la ruse du cheval de Troie. Donc là, évidemment, il y a Cassandre, hein, à l'époque. Nous, les marxistes-léninistes du PCF, nous étions un peu dans le rôle de Cassandre, c'est-à-dire celle qui annonce ce qui va se passer, mais que personne n'écoute. Eh bien, nous disions, attention, il ne faut pas laisser entrer l'ennemi dans nos rangs. Personne n'écoute. Quels ennemis? Ils sont partis. Tu vois bien qu'ils sont partis, ils ne sont plus là. Les Grecs ont fichu le camp. Virgile dit, Timéo Danaos et Dona Ferentes, je crains les Grecs même quand ils apportent des présents. Hein. Et bon, on abat un mur de la ville, on fait entrer le cheval de Troie, on fait la fête autour, et puis la nuit, on va dormir. Et pendant la nuit, alors, évidemment, c'est... grossier un peu ce que je dis là, c'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, ils ont des moyens mille fois plus élaborés que de construire des chevaux de bois, mais ils ont les moyens effectivement d'entretenir dans les partis communistes, dans les syndicats ouvriers et dans les états socialistes des cinquièmes colonnes, voilà, ça s'appelle comme ça, et à partir de là effectivement le château Union soviétique par exemple ou le château, la forteresse PCF n'ont pas été pris du dehors, ce que Hitler n'avait pas réussi à faire avec eux pendant la deuxième guerre mondiale. Eh bien, leurs éléments internes, dits rénovateurs, dits mutants, dits refondateurs, dits tout ce qu'on voudra, y ont réussi. Et malheureusement, la direction des partis communistes, à l'époque, n'a pas été en capacité de leur répliquer. Et il y a quand même aussi, parce que sinon, si je disais seulement ça, ce serait une explication partiellement idéaliste des choses. Hein, parce que je dirais, bon voilà, il y a eu des traîtres, et puis...
C'est presque complotiste,
voilà, ça pourrait être
un terme à la mode.
Voilà, s'il n'y avait que ça, ça serait complotiste. Il faut dire aussi que le virage néolibéral du capitalisme a largement aidé à cela, et notamment aussi le virage européiste, qui n'a pas simplement été pris par Jacques Delors, comme dit Aquilino Morel, ou comme disent certaines personnes à l'heure actuelle, en 83, lorsque Mitterrand a pris le tournant de la rigueur, mais qui a bel et bien démarré beaucoup plus tôt. Notamment, ce qu'il faut avoir quand même en tête, c'est que après mai 68, moi je suis bon vieux de la vieille, j'ai lu ces choses-là dans l'Humanité de l'époque. Hein, après mai 68, la classe capitaliste française avait eu quand même une trouille bleue. On voit bien comment elle a eu peur des gilets jaunes. Alors à partir, quand on compare avec mai 68, c'était quand même autre chose, 68. Hein. Bon, ils ont eu une trouille bleue, quoi, une trouille rouge, faut-il dire peut-être. Plus jamais ça, donc, à partir de là. Et donc, dès 69-70, on voit Pompidou, puis Giscard, puis Mitterrand, qui se rapproche de plus en plus des dirigeants allemands. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est un pays beaucoup plus solide du point de vue de l'hégémonie capitaliste que la France, pour des raisons historiques diverses et variées. Et donc, même qu'il y a littéralement une sorte de partage qui est fait entre eux sur l'orientation économique des deux pays. Donc, en gros, il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, la principale usine qui avait en gros mené la lutte en 68, c'était Renault-Billancourt. C'était là que se décidait, en gros, le sort des accords Matignon, etc. Bon, la classe ouvrière
désespérée.
Voilà, exactement. Et la classe ouvrière de Billancourt votait pour toute la classe, si l'on peut dire, quelque part, parce qu'il n'y avait pas Internet. Il y avait une sorte de délégation aux ouvriers de Renault à qui on faisait confiance. Bon, et ben voilà, on décide de liquider Renault, on décide de liquider... C'est pas complotiste de dire ça, c'est tout simplement qu'il y a des politiques de classe, et qu'en France, c'est une vieille politique qui date pratiquement même de la Révolution française, hein. Les classes privilégiées préfèrent s'entendre avec les capitalistes ou les féodaux étrangers, selon les moments, contre leur propre peuple, parce qu'elles n'arrivent pas à le maîtriser, quitte à lui faire la peau. Et donc, froidement... Dans les années qui suivent, on voit la sidérurgie française, les mines françaises, le textile, etc. La paysannerie française rouge, parce qu'il y avait toute une partie de la paysannerie française qui était rouge, dans l'Hérault par exemple, qui est complètement liquidée. Et en même temps, c'est la construction européenne. Et donc, voilà, bon, bah, et le grand capital va concentrer la production industrielle dans la roue, pour l'essentiel. Bon, il y a une sorte de partage des tâches ici qui va s'opérer.
De division
de classe du travail à l'échelle internationale. C'est pour ça aussi que le PCF est déstabilisé. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a des méchants hein, qui vont... D'ailleurs, qui ne sont pas forcément des gens conscients. Je ne dis pas que, je ne sais pas moi, Juquin, Fisbin ou tous les refondateurs de l'époque avaient dans l'idée de détruire le Parti communiste. J'en sais rien. Au fond, je m'en fiche. C'est pas tellement ce qu'ils avaient dans la tête qui compte, c'est ce qu'ils ont fait.
C'est les armes, c'est les fruits que cet arbre a donné.
C'est les fruits, exactement. Peu importe ici s'il y avait des agronomes ou pas derrière. Et donc effectivement, le Parti communiste, ben, il est aussi déstabilisé dans sa classe d'appui, parce que c'est quand même pas la même chose quand il y a, comme à l'époque en 68, 6 millions de métallurgistes en France. Et aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, moins de 400 000. Bon, ben, c'est pas la même puissance du prolétariat, y compris à l'intérieur du parti. Donc après, même dans ces partis, ben, vous avez la montée de classes plus, comment dirais-je, plus petites bourgeoises, de classes moyennes, etc., qui prennent petit à petit le contrôle du parti. Et bon, ce sont des évolutions sociologiques. Le fond des choses étant, si c'est encore possible, je ne sais pas, oui, le fond des choses étant que il faut revenir à la grande analyse de Lénine dans l'impérialisme. Stade suprême du capitalisme, une brochure que tout militant, que tout démocrate, d'ailleurs, en réalité devrait lire, qui est écrite en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, où Lénine explique que l'impérialisme devient une question de ventre, entre guillemets, pour le capitalisme. C'est-à-dire que, voilà, dans toute l'Europe, juste avant la guerre de 14-18, ben les partis socialistes, alors marxistes, plus ou moins marxistes, sont en train de monter, qu'il faut trouver un échappatoire. Et donc, voilà, il faut trouver le moyen d'exploiter plus durement les pays du tiers-monde. On ne disait pas du tiers-monde, on disait d'Orient à l'époque, mais ça revient au même. Qu'à partir de là, eh bien, ce surprofit, cette valeur ajoutée, cette plus-value ajoutée, va permettre, effectivement, ben, de donner, comme disent les réformistes, du grain à moudre à une partie, en tout cas, du prolétariat occidental. Que ça va permettre de développer dans ces partis socialistes de l'époque une couche qui n'a plus intérêt à la révolution, une couche sociale impérialiste, socialiste en parole, impérialiste en réalité. Et dit Lénine aussi, ça c'est une partie de son propos qui est tout le temps occultée, de développer en compensation à la fois la désindustrialisation, on ne disait pas comme ça, mais ça revient au même, des pays industriels de l'époque. On expédie l'exploitation capitaliste à l'extérieur, comme ça on n'est plus emmerdé avec entre guillemets, les prolétaires, les esclaves les plus durs, les plus conscients, etc. Mmh. Et deuxièmement, on développe ce qu'il appelle une économie parasitaire.
Une économie de rente ?
Une économie de rente. Il le dit déjà, une économie de casino même. Parce que c'est quand il parle de Monaco, dans ces trucs-là. Il parle de Monaco, il parle de la Suisse, de la Riviera italienne, il parle du sud de l'Angleterre, de la Suisse. Et il dit, voilà l'avenir du monde capitaliste central. Avec des gens qui vont travailler. Alors, on n'emploie pas les mots de notre époque, évidemment. Mais moi, je dis, en gros, la finance, la com, la pub, le tourisme friqué, etc., etc. Enfin, tous ces trucs-là. Bon, voilà aussi ce qui aide ensuite à saper, à détruire le mouvement communiste international. Voilà.
Et qui sont des constantes de notre société aujourd'hui, on y reviendra.
Exactement.
Je veux revenir sur un terme que vous avez employé, et l'un des moments de bascule de l'histoire du Parti communiste français. Je veux revenir sur ce terme parce que, vous l'avez dit rapidement, deux ou trois fois, mais je pense aux jeunes auditeurs qui ont été très bons à l'école, qui ont bien écouté leur prof d'histoire. Vous avez employé le terme de dictature du prolétariat. Vous dites le PCF a abandonné cette notion de dictature du prolétariat. Vous dites que c'est une faute. Et ça va peut-être résonner dans les esprits jeunes et faibles comme bien cette fameuse dichotomie qui existerait, qu'on nous apprend à l'école, entre le mal, la dictature, le bien, la démocratie. Ça vient aussi dire que finalement le communisme c'était la dictature, donc c'était pas bien. En quelques mots, pourquoi la dictature du prolétariat ? Pour un communiste, comme vous, c'est important.
Voilà, alors,
vous êtes un orthodoxe.
Ah, je suis un orthodoxe, effectivement. Ici, à la fois un protestant et un orthodoxe, si on peut dire. Bon, alors, effectivement, je dirais qu'il faut bien comprendre ces termes-là à partir de leur définition rigoureuse et non pas à partir de l'impression qu'ils produisent parce qu'on a créé les conditions pour qu'ils résonnent d'une façon négative. On ne doit pas juger d'un mot à l'effet qu'il produit, on doit juger d'un mot à sa justesse, au fait qu'il décrit correctement ou pas une réalité. Et que veut dire le mot dictature du prolétariat ? Je parlais à l'instant de la conception de l'État, et je disais que le PCF avait commencé bien avant l'abandon de la dictature du prolétariat à abandonner la conception marxiste de l'État. Qu'est-ce que c'est que cette conception marxiste ? Cette conception marxiste, elle n'est pas dogmatique, elle est liée à l'expérience que Marx et Engels ont fait tout simplement de l'État bourgeois, prussien d'abord, puis français, puis etc. Bon, ils se sont rendus compte que partout, les États étaient des ennemis acharnés des communistes, qu'ils aidaient les patrons systématiquement, qu'on tirait sur les ouvriers. Le manifeste communiste est écrit en 1848 et publié dans différents pays, mais en juin 1848, les ouvriers français qui réclament du travail, alors qu'ils viennent d'obtenir la création de la Deuxième République, et que c'est eux qui ont versé leur sang pour établir la République, sont massacrés en masse par Cavaignac, et donc, bon, d'un seul coup, les ouvriers découvrent, bon, peut-être certains d'entre eux l'avaient compris avant, mais la masse de la classe ouvrière découvre d'un coup que cette république est une république bourgeoise qui leur tire dessus. C'est pas une dictature, ça. Bon, alors, donc, effectivement, Marx et Engels découvrent que, bon, ben voilà, il faut toujours parler de l'État en termes de classe. Que l'État n'est pas neutre, que l'État ne défend pas l'intérêt général, que l'État est une machine au service de la classe dominante. Si cette classe dominante, comme au Moyen-Âge, est la classe des propriétaires nobles, des fonciers, des propriétaires fonciers, eh bien voilà, elle va défendre les propriétaires fonciers, y compris tirer sur les bourgeois, ou à l'époque, non pas avec des fusils, mais avec des arcs ou des flèches, enfin peu importe. Qu'à l'époque où c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir, eh bien c'est la bourgeoisie qui va, au fond, dès que ça va devenir un peu, dès que ça va se corser, quoi, en quelque sorte, avec la classe ouvrière, ne pas hésiter une seconde à faire tirer dans le tas, hein, et que bon, ben, lorsque les ouvriers eux-mêmes vont arriver au pouvoir, ça ne va pas se passer gentiment. Bon, voilà, il faut quand même comprendre un peu les choses. Je me tourne vers les communistes, y compris les communistes qui ont suivi tout ça, tous ceux qui ont dit ben, « ben, il faut abandonner la dictature du prolétariat parce que c'est pas vendeur », en gros, parce que c'est ça ce qu'on leur a expliqué à l'époque. Que la dictature du prolétariat, mais vous comprenez bien, tant qu'on aura ça dans notre arsenal, on pourra pas avoir des voix. Hein, et donc, bon, donc on pourra pas concurrencer le Parti Socialiste dans cette lutte à l'intérieur du programme commun, ainsi de suite, parce que ça se posait comme ça, avec Mitterrand. Bon, eh bien, en réalité, ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que, voyons les choses telles concrètement aujourd'hui. On a Macron qui déjà a fait éborgner plus d'une trentaine hein, de gilets jaunes et ainsi de suite. Et vous avez vu comment, à chaque manifestation, en même temps, soit peu importante, tous ici, nous l'avons vécu, quoi. Bon, même quand elles sont pépères, comme c'est pas possible, même quand il se passe rien, on est nassé, on est gazé, on est frappé, etc., etc. Et encore, il n'y a pas de situation révolutionnaire pour l'instant. Que serait-ce si ? Bon, quand par ailleurs, on est dans un pays, prenons la France, mais on peut le voir dans des pays voisins, où l'extrême droite est au niveau qu'elle a actuellement, où on parle de Zemmour au deuxième tour, alors qu'il n'est même pas encore candidat, ou je ne sais trop quoi, enfin, peu importe, même si c'est pas lui, ça c'est un épiphénomène. Mais comment peut-on s'imaginer une seconde que ça va se passer tranquillement, pépèrement, pantouflardement, si je puis dire, lorsque vraiment les choses se tendront dans ce pays ? Or, elles se tendront. Inévitablement, elles se tendront. Mmh. On est en train de tout casser, on est en train d'en finir avec ce qui reste des usines, on est en train de foutre en l'air ce qui reste des services publics, et ainsi de suite, la protection sociale, la retraite à 64 ans, à 65 ans, à 67 ans, et plus de retraite du tout à la fin, crever au boulot, et ainsi de suite. Il est impossible de penser que les travailleurs, les prolétaires, et ainsi de suite, vont toujours se laisser faire, se laisser marcher sur la figure sans qu'il se passe rien. Et le soulèvement des Gilets jaunes montre bien que il n'en sera pas ainsi. Marx avait déjà averti que la France est d'ailleurs très bien placée de ce côté-là. C'est une phrase célèbre de Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, où il dit « La France est le pays classique des luttes de classe menées jusqu'au bout, dans un sens ou dans l'autre. Hein. » Bon, donc, on peut être menacé dans notre pays, y compris les gens qui croient que, bon, voilà, on est le pays des droits de l'homme, il n'y aura jamais le fascisme chez nous. Mais enfin, bon, qu'ils ouvrent un peu les yeux. Hein. On a eu Pétain, non ? Il est pas sorti.
Oui,
bon,
elle est libre.
Et voilà, et en 58, il faut voir comment ça s'est passé, et bon, etc., etc.
Si toutefois, donc, nous faisons la révolution, il serait absurde de laisser l'appareil d'État aux mains de ceux qu'on dégomme, si je puis dire.
Ben voilà.
Hein, donc c'est bien ça.
Radio Campus.
Ah, je me disais aussi, Staline avec la Ferrari.
106,6.
Dites-moi, Georges Gastaud, je lis aussi parfois certaines critiques vis-à-vis de vous. Alors, vous êtes sorti du Parti communiste en quelle année ?
Alors, j'en suis sorti en 2004.
En 2004. Et depuis, vous êtes l'un des animateurs du pôle de renaissance communiste en France, qui est un des groupes, on va dire le principal, je pense, un des groupes qui vise à reconstruire un parti communiste digne de ce nom. Et donc, je disais... S'agissant de ce parti ou de votre personne, je vois par exemple qu'on vous traite de stalinien. Mmh. Comment vous prenez ça ? Comment vous définissez ça ?
Ah, alors effectivement, alors une première petite chose, en 2004, je ne suis pas sorti du parti simplement sur une espèce de coup de tête ou parce que j'avais en tête avec mes camarades de fonder autre chose. J'ai vraiment, avec les copains, avec les amis, tenté jusqu'au bout de réunir tout ce que je pouvais avec mes petits bras, avec nos petits bras de communistes, disons, fidèles à l'idéal révolutionnaire, à l'intérieur du parti. On a mené des batailles, ça n'a pas arrêté pendant des années, à tous les congrès du parti, et en particulier aussi avec la Fédération du Pas-de-Calais, qui à l'époque était opposante à l'orientation, rappelons-la par son nom, liquidatrice, hein, qui était en place, et notamment avec celle de Robert Rue. Bon, à un moment, on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait plus, et que ça ne marchait pas. Voilà, c'est une question aussi d'expérience, c'est pas une espèce de position dogmatique qui nous y a menés. Je dirais presque que c'est contraint et forcé, hein, que quelque part, je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas remuer des vieilles salades, personnelles et anecdotiques.
Vous avez bien noté que Robert Rue a aussi quitté le parti. Hein.
Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait, oui, c'est rigolo d'ailleurs, parce que ces gens-là créent les conditions pour mettre les partis communistes ou les syndicats en difficulté, puis après, ils s'en vont chercher leur récompense immédiatement. Mais la différence entre lui et moi, c'est que je ne suis pas devenu sénateur du Parti Socialiste. Voilà. Bon. Alors, cela étant, effectivement, je dirais que, en l'occurrence, le mot stalinien lui-même, je le trimballe comme une espèce de croix, mais peut-être aussi quelquefois comme une espèce de croix d'honneur, pourquoi pas, de la part des gens qui me le mettent sur le dos, parce qu'il faut toujours savoir qui parle en face. Si je me fais traiter, tous les noms par quelqu'un que j'estime, ça me blesse. Mais si ce sont des gens qui ont liquidé le parti qui me traitent de ce nom, ou si ce sont des bourgeois, ou si ce sont des fascistes, ou si ce sont des gens comme ça, eh bien, ma foi, je le prends d'où ça vient. Et je me souviens du vieux mot d'Auguste Bebel, qui était le fondateur du Parti social-démocrate allemand, parti à l'époque marxiste, qui disait que lorsque ton ennemi t'engueule, c'est peut-être que tu as fait quelque chose de bien, et lorsqu'il te félicite, au contraire, tu dois te demander si tu n'as pas fait une grosse gaffe. Bon, voilà. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout dans le culte de la personnalité de quelque révolutionnaire que ce soit, y compris, je le précise, ni de Marx, ni de Robespierre, ni de Lénine, pour lesquels j'ai pourtant beaucoup d'admiration, mais une admiration raisonnée. Hein, et bon, ce sont des êtres humains et qui peuvent aussi, tous à leur niveau, avoir eu telle ou telle faiblesse à tel ou tel moment. Bon, voilà, donc on est dans le faillible, on est dans le marxisme. C'est pas une religion, comme vous disiez très justement l'autre fois. Donc je suis fort loin des cultes de la personnalité, de qui que ce soit, etc. On a sans doute, de ce point de vue-là, exagéré l'Union soviétique, comme on a pu exagérer encore plus en Chine à l'époque de Mao, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas revenir à ces choses-là. Et si c'est ça qu'on appelle être stalinien, alors je ne suis pas stalinien. Je le dis comme Marx disait lui-même, je ne suis pas marxiste. Hein. Voilà, exactement. Hein. Mais d'un autre côté, si on entend ça au sens d'une espèce de, comment dire, ah là là, hein, bon, une sorte de gage, vous voyez, je ne suis pas stalinien, parce que ça la fout mal aujourd'hui, parce que, bon, Staline, voilà, je pense tout simplement, par exemple, au mot du chanteur Renaud. Hein. Bon, Renaud, alors, bon, on en laisse, mais à une époque, on lui pose une question comme celle-là, alors qu'il passe à la télé, c'était les questions de l'époque, et on lui dit, par exemple, bon, alors, par exemple, la poire ou le fromage, eh bien, la poire, le sel ou le sucre, le sel, et, boum, Hitler ou Staline. Voilà. Et bien, Renaud répond, bah, écoutez, à Stalingrad, Staline. Et oui, Staline, parce que si on n'est pas pour Staline à Stalingrad, c'est qu'on est un salaud. C'est tout. Il y a des moments où il faut quand même regarder les choses en face.
Et il y a des moments où Renaud ne disait pas de conneries, donc.
Il y a des moments, ah mais tout à fait, ben, Renaud, bon, il y a malheureux, effectivement, il n'y a pas Renaud Billancourt qui a été détruit par la contre-révolution. Bon, enfin, c'est triste d'ailleurs, parce que j'aime bien ce bonhomme. Bon,
bien sûr.
À part ça, c'est une victime par certains aspects. Mm-hmm. Mais bon, en gros. Je suis comme, tout simplement, les gens qui, après la Deuxième Guerre mondiale, regardaient l'effort que l'Union soviétique avait consenti pour abattre le nazisme. Mmh. Il faut savoir que, par exemple, De Gaulle, et pourtant ma première manif en 68, c'était pour crier avec tout le monde, 10 ans ça suffit, à l'encontre de Gaulle. Pardon. J'enlève le chat.
Il y a un chat, ce n'est pas le cheval de Troie.
Elle est sympathique, mais...
C'est le chat de Georges.
Et oui, bon, je ne sais même pas si le fouet, elle est de droite, et pourtant, ça fait des années qu'on la nourrit sans lui poser de questions. Vous voyez, comme je suis intolérant. Bon, enfin, passons. Oui, je disais, donc, De Gaulle, en 1944, fait sa première visite d'État en tant que chef du gouvernement de la France libre à Moscou. Mm-hmm. Et donc, devant Staline, il déclare « Les Français savent, je cite, hein, « Les Français savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération. » Et que ce n'est pas, bon, même si il n'est pas question de nier le sacrifice des GIs qui sont tombés sur les plages normandes, que ce n'est quand même pas là que ça s'est passé pour l'essentiel, que c'est à Stalingrad, à Koursk, et que les Soviétiques ont pris Berlin tout seuls. Voilà, bon, donc quand même, moi je n'oublie pas le drapeau rouge flottant sur le Reichstag... J'oublie pas que, bon...
C'est pas tellement ça, je crois, qu'il y a derrière le mot stalinien. J'ai plus l'impression, dans son acception actuelle, sans faire véritablement forcément référence au personnage de Staline, j'ai l'impression que cette épithète est adressée, en vérité, à des gens qui prennent le communisme au sérieux.
C'est ça, oui, voilà, c'est parce que...
C'est-à-dire qu'un combat de classe, il faut le diriger.
Voilà, exactement.
Je
dirais par rapport à Staline un peu ce que Einstein disait par rapport à une question qui lui était posée quand il a débarqué aux États-Unis pour la première fois, chassé par les hitlériens, puisqu'il était juif. Bon, il débarque aux États-Unis. Les journalistes se précipitent sur lui parce qu'il est quand même un physicien très connu, et il y en a un qui lui demande « Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu ?» Et Einstein répond « Dieu, dites-moi ce que vous entendez par là et je vous dirai si j'y crois. » Bonne réponse philosophique. Bon, eh ben, dites-moi ce que vous entendez par stalinien, je vous dirai ensuite si je suis stalinien. Dans les représentations des uns et des autres, bon, à tort ou à raison, je n'entre pas ici dans le détail, mais bon, si on se représente quelqu'un de stalinien comme quelqu'un de sectaire, de dogmatique, qui a toujours raison, enfin des choses comme ça, quoi, et qui ne veut voir qu'une tête, et ainsi de suite, alors là, je ne suis pas stalinien. Reste à savoir si Staline était lui-même stalinien de cette façon-là. Mais en tout cas, bon, Lénine, lui, il aimait la discussion entre les différents même courants du parti bolchevique et ainsi de suite. Donc moi je me
Staline dis, un peu moins peut-être.
Staline un peu moins. Bon, personnellement, j'ai écrit un livre en 1997 qui s'appelle Mondialisation communiste et Mondialisation capitaliste et projet communiste. Et je reprends bon certains éléments du testament de Lénine. Bon, mais sans pour autant juger que, par exemple, eh bien, la solution aurait été Boukharine ou aurait été Trotsky. Je ne crois pas que ça aurait été mieux. Bon. Donc, voilà. Et puis, j'entérine, il faut le dire aussi, parce que sinon, ça serait lâche de ma part, mais j'entérine le choix du socialisme dans un seul pays à l'époque, de Staline par rapport à Trotsky, l'industrialisation de l'Union soviétique, l'orientation vers la collectivisation de l'agriculture, même si sur les formes, il y a beaucoup à dire. Le camp socialiste après la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite. Bon, mais si donc, par stalinisme, parce que les gens ont ça dans la tête, on entend tout ce que j'ai dit auparavant, alors là, oui, je ne suis pas stalinien. Si on entend par être stalinien le fait de vouloir un parti d'avant-garde, un parti organisé, un parti discipliné, un parti lié principalement à la classe travailleuse, spécialement aux ouvriers, qui sont le cœur de la classe travailleuse, eh bien, oui, alors, dans ce cas, ça ne me gêne pas, si c'est ça. Hein. Et bon, effectivement, je dirais aussi qu'il faut s'interroger sur l'anti-stalinisme, puisqu'à notre époque, c'est presque une espèce, comment dirais-je, de billet de faveur, quoi. Il faut commencer par dire qu'on est anti-stalinien si on veut pouvoir parler sur quoi que ce soit. Bon, là, je ne céderai pas à ce genre de choses, parce que je n'aime pas... Voilà, je ne suis pas pour le pass sanitaire et je ne suis pas non plus pour le pass politique. Mmh. Je ne donne pas de pass politique à mon adversaire. Voilà, de cette façon-là.
Une autre critique vous est adressée à vous et au PRCF, d'une manière générale. J'aimerais une réponse, malgré tout, assez réduite, si possible. C'est l'accusation de rouge-brun. Parce que vous insistez beaucoup sur le mariage de deux drapeaux, et donc de deux traditions politiques, peut-être. Le drapeau rouge, bien sûr, dont on parle. Le drapeau tricolore, le drapeau français. Je vous avoue que moi-même, ça me pose question. Alors, c'est peut-être pas forcément rationnel. Mais j'ai, par exemple, moi, qui suis en face de vous, là, vis-à-vis du drapeau tricolore, des réticences. Elles sont peut-être dues au contrôle policier vécu dans ma jeunesse, avec cet écusson de blanc-rouge. Elles sont peut-être dues au rassemblement du Front National ou de Sarkozy devant la Tour Eiffel. Je sais que ça m'a remarqué. C'est peut-être dû à certains supporters de football. C'est peut-être dû à certains manifestants aussi, aujourd'hui, dans les Gilets jaunes, etc. Vous, j'imagine que vous n'avez pas du tout la même interprétation que ça. Mais voilà. Et ça amène, donc là je vous dis, moi, la gêne, quand je parle de moi, c'est pour parler sans doute d'autres, évidemment. Et on vous accuse donc d'avoir un communisme matiné de, alors on dit nationalisme, quand on veut vraiment vous faire du tort, ce que vous allez appeler du patriotisme, je pense. Hein. Alors est-ce que vous pouvez, en 3-4 minutes...
On va essayer,
mais c'est un bon exercice après tout.
Bien entendu, oui, non, c'est une question tout à fait légitime. Moi-même, pour parler aussi du vécu hein, des uns et des autres, moi-même, dans les années... 80 essentiellement, lorsque le PCF, auquel j'appartenais encore à l'époque, a développé le thème du produire français, par exemple, lorsqu'il a développé avec Georges Marchais l'idée de l'immigration zéro, hein, parce que c'était quand même le PCF qui a lancé cette chose-là à l'époque, moi-même j'avais donc les plus grandes réticences par rapport à cela, et je m'étais en particulier insurgé lors d'une conférence nationale contre une déclaration de Georges Marchais qui disait qu'il était français avant d'être communiste. Moi, je suis communiste, d'abord, fondamentalement, et si je défends la nation française dans certaines conditions et dans une certaine perspective, c'est par rapport à mon engagement communiste. Je voudrais dire ici, donc ce n'est pas une opposition de vécu, si l'on peut dire de ce point de vue-là. Et je pense qu'effectivement, dans certaines conditions, on peut être tout à fait, avoir le même ressenti, la même réticence. En ce sens, je ne suis pas pour le drapeau tricolore en tant que tel. Je suis pour les deux drapeaux, et pas l'un sans l'autre. Cela dit, à terme, le drapeau qui peut unifier toute la classe ouvrière et toute la classe ouvrière mondiale et toute l'humanité communiste future, c'est le drapeau rouge. Il faut ici être clair sur, comment dire, le présent, le futur proche et le futur lointain, en quelque sorte. Cela dit, je le disais tout à l'heure, lorsqu'il a été question notamment de la destruction par la classe capitaliste française des bases industrielles dans notre pays, lorsqu'il a été question du fait que cette classe oligarchique française, de plus en plus, comme elle l'avait déjà fait à l'époque, effectivement, par exemple, de Thiers, quand il a été chercher Bismarck pour fusiller la Commune, de Pétain quand il s'est rangé sous Hitler, etc., cette classe, elle a toujours tendance, effectivement... Oh, c'est le casse-pied. Je parle du chat. Bon. Donc, elle a été toujours, disons, incroyablement, comment dire, encline à la trahison nationale. Ça fait partie de ses gènes, tout bonnement, parce que, voilà, elle a eu le malheur, et le grand malheur, d'être la classe qui a émergé grâce à une révolution populaire, la Révolution française. C'était une révolution bourgeoise, mais contrairement aux révolutions bourgeoises anglaises ou américaines, surtout anglaises, elle s'est faite avec l'appui populaire. Et en gros, bon voilà, c'est le peuple français est sorti du tube de dentifrice à l'époque, et depuis, ils n'arrivent plus à le faire rentrer dans le tube, si l'on peut dire, quelque part. C'est un peu ça, les Gilets jaunes aussi, à mon avis. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, chez les Gilets jaunes, alors il peut y avoir des gens qui brandissent le drapeau tricolore sur des bases racistes. Mmh. Hein, il peut y avoir aussi des gens qui ont dans la tête l'imaginaire de la Révolution française,
tout à fait, oui.
De même la guillotine.
La guillotine, bon, les barricades.
Ça ira, les barricades, les sans-culottes, etc. Bon, mmh. Toutes ces choses-là. Et en gros, donc cette classe capitaliste, elle est ce que j'appellerais, elle est à la fois impérialiste, parce que ça l'empêche absolument pas d'être impérialiste à l'étranger, de vouloir effectivement continuer à dominer le Proche-Orient, l'Afrique, et les dom-toms, etc., etc.
Et antinational.
Pardon ?
Et antinational.
Et antinational. Et antinational. Et les deux à la fois. Parce que le vrai problème, à mon avis, c'est toujours pareil. Moi, j'essaye d'aborder les choses en tant que matérialisme dialectique. C'est-à-dire, d'un point de vue de classe, matérialisme, et d'un point de vue dialectique, c'est-à-dire sans opposer ce qui ne doit pas l'être. D'un point de vue de classe, parce que il n'y a pas qu'un patriotisme. Il y a un patriotisme bourgeois et un patriotisme populaire. De même qu'il n'y a pas qu'un internationalisme. Il y a un cosmopolitisme bourgeois, celui bon du CAC 40, de la finance mondiale, de Wall Street, quoi, en gros, si je veux résumer les choses, ou de l'Europe supranationale, la Commission européenne et compagnie, et un internationalisme prolétarien, un internationalisme populaire. Alors évidemment, par exemple, je suis plus proche d'un ouvrier immigré qui construit le pays, qui, avec le marteau-piqueur, etc., va à un moment fabriquer des routes et des ponts, en quelque sorte, que d'un capitaliste français qui expatrie tous ses fonds et qui pille le pays. Je suis plus proche, effectivement, d'un militant du tiers-monde, je parle à l'ancienne, hein, comme dans les années 60-70, qui, effectivement, donc, essaye de libérer son pays de la France-Afrique, que je ne suis proche de Bolloré, par exemple, de Vincent Bolloré, tous ces gens-là. Mais en même temps, tiens, prenons Bolloré, tiens, c'est un cas d'école, ou Le Drian, qui est l'inamovible chef de file du complexe militaro-industriel français depuis Mitterrand, pratiquement. Ben, ces gens-là, c'est quand même extraordinaire. C'est à la fois des fleurons de la France-Afrique, surtout Bolloré, et aussi des ennemis acharnés de l'unité territoriale française. Bolloré, c'est un partisan quasiment du détachement. Enfin, il le dirait peut-être pas comme ça, pour l'instant, mais du détachement de la Bretagne par rapport à la France. Hein, donc, bon, il faut lire le télégramme de Brest, par exemple, le journal du coin, j'étais en vacances là-bas cet été, le feuilleton qui passe tous les jours s'appelle « La Bretagne largue les amarres ». Voilà, on habitue les gens à l'idée que, pour 2030, c'est écrit comme ça, « La Bretagne foutra le camp », etc. Bon, comme on pouvait le dire pour la Corse, et ainsi de suite, parce que, bien entendu, ces gens-là, ils sont indépendantistes bretons à la manière dont ils le sont, c'est-à-dire dans la perspective de l'Europe.
Avec les grandes régions.
Les grandes régions, voilà.
Et si voilà. Je comprends bien, donc, la destruction de l'unité nationale, c'est un élément de la lutte des classes.
C'est un élément de la lutte des classes.
Ça nous voilà. Dirigeait pour le droit des peuples à s'autodéterminer, mais plus exactement pour casser ce peuple français exactement. Et le faire rentrer dans le...
Exactement. Et pour empêcher en particulier ce qui leur pend au nez depuis des années et des années, que ce qu'on crie tous dans les manifs depuis 95...
Tous ensemble.
On ne pourra plus le crier aussi, c'est un élément qui me tient à cœur, si la langue française cesse d'être le ferment unificateur du pays d'un point de vue hégémonique, culturel, linguistique, au sens où Gramsci... Donc, il faut quand même pouvoir crier dans la même langue, déjà pour commencer, effectivement. Et donc, d'une certaine façon, on voit que de mille façons, hein, la classe bourgeoise, y compris la social-démocratie, peut-être encore plus la social-démocratie, qui maintenant est totalement intégré à l'oligarchie, veut en finir avec cette espèce de boulet qu'est devenue la France. Et moi, je le pense d'un point de vue internationaliste. Je pense le patriotisme à partir d'un internationalisme. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, la classe capitaliste a mené une contre-attaque qui, pour l'instant, l'a quand même menée au sommet. Hein, mm-hmm. Bon, même si on a vu tout à l'heure qu'il y avait des contre-attaques dans la contre-attaque. Mais elle a eu la peau de l'Union soviétique. Bon, quand même, c'est un énorme pavé dans notre camp, si l'on peut dire. Hein. Mm-hmm. C'est la révolution d'octobre. Bon, mm-hmm. Après, il y a eu quoi? Il y a eu la Grèce. Mm-hmm. Alors, la Grèce, d'un point de vue culturel, d'un point de vue civilisationnel extraordinaire, même si, bien sûr, il faut mettre des tas de guillemets à cela, c'est l'inventrice de la démocratie. Mm-hmm. Démocratie esclavagiste, certes, mais bon, les choses se font comme ça dans l'histoire. Mm-hmm. N'empêche que c'est quand même à Athènes que pour la première fois, des gens se sont réunis sur la place publique pour, à égalité, voter pour savoir si on faisait la guerre ou la paix ou des choses comme ça. Hein. Donc, elle a eu la peau de la Grèce, quand même. La réalité, c'est que la Grèce, maintenant, est un pays détruit. Mm-hmm. Hein. Si, maintenant, au coin du bois, en quelque sorte, elle avait aussi la peau de la France. Alors, la France-Afrique, etc., je la lui laisse. Hein. Bon, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. Mais non pas de la France-Afrique, mais ce que j'appellerais de la France sans fric, plutôt. Mmh, mmh. Hein, c'est-à-dire, bon, la France populaire, ma France, de Jean Ferrat, mmh. Voilà. Effectivement, si elle avait aussi la peau de ce truc-là, mais c'est une défaite incalculable du point de vue culturel au niveau mondial, parce que le peuple français actuel, il n'en a pas conscience, et quelquefois même, je trouve qu'il n'est pas digne de cet héritage, hein, mmh. Pour le dire franchement. Mmh. On parle aux gens qu'on aime de façon franche. Hein, mmh. Bon. Eh bien, malgré tout, il porte par-devers lui, sans trop s'en douter.
Et ça, les bourgeois le savent.
Oui, ils le savent. Ils le savent plus que nous. Mm-hmm. Ils le savent plus que nous. Quand on va encore à l'étranger, ça parle encore. On nous dit, mais bon, et les gilets jaunes, par exemple.
Bien sûr.
Comme ça, ça parle. Alors, moi, c'est ça que je défends en réalité.
Et bien, je propose que nous reprenions cette conversation à ce niveau-là. C'est-à-dire, peut-être, on va même l'élargir la prochaine fois.
Oui.
À partir du titre de la somme d'ouvrage que vous avez publié aux éditions d'Elga, qui s'appelle « Lumière commune », et donc vous nous direz si vous faites un lien, une continuité entre le commune de communisme et les lumières de la République française. Ce sera la prochaine fois. Merci Georges Gastaud.
Il y avait des temps et des temps, je ne m'étais pas servi de mes dents, je ne mettais pas de vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croque-morts silencieux me dévoraient déjà des yeux. Ma dernière heure allait sonner, c'est alors que j'ai mal tourné. N'y allant pas par quatre chemins, j'estourbise à un tourne-main, à un coup de bûcher excessif, un octambule à nord massif. L'échafourée, quand ils l'ont su, m'ont posé la patte dessus pour m'envoyer à la santé, me refaire une honnêteté. Machin, chose, un tel, une telle, tous ceux du commun des mortels furent d'avis que j'aurais dû en bonne justice être pendu à la lanterne et sur le champ. Ils voyaient déjà partageant, m'accordant tout bien tout honneur, en guise de porte-bonheur. Au bout d'un siècle, on m'a jeté à la porte de la santé. Comme je suis sentimental, je retourne au quartier natal, baissant le nez, rasant les murs, mal à l'aise sur mes fémurs, m'attendant à voir les humains se détourner de mon chemin. Il y en a un qui m'a dit « Salut, te revoir, on n'y comptait plus ». Il y en a un qui m'a demandé des nouvelles de ma santé. Alors j'ai vu qu'il restait encore du monde et du beau monde sur terre, et j'ai pleuré le cul par terre, toutes les larmes de mon corps.
clairement, il va falloir réformer.
On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs.
C'est pas assez violent, tout simplement. Alors, c'est la société française.
Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler, qu'en est-il?
Est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler?
Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité des Gilets jaunes sans se voir taxé comme ça de mépris classe.
Le monde est en train de changer. Alors, serez-vous capable de vous adapter?
Qui souffre le plus de la grève et des blocages? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte.
Quand on regarde la réforme des retraites, c'est une réforme de gauche.
Oui, parce que les RTT, les 35 heures à l'hôpital, ont désorganisé l'hôpital public.
Il y a eu de la torture, il y a eu tout ce que vous voulez, je ne le nie pas. On n'a rien fait de mal.
On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
L'heure de le mettre, mercredi à 18h30, sur Radio Campus 106,6.